Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Aujourd'hui, chers auditeurs, j'ai le très grand plaisir de recevoir Bertrand Cousin, qui est le conseiller du président d'Editis et qui est l'auteur d'un mémorandum au syndicat national de l'édition qui s'intitule « La présence du livre français dans les pays francophones du Sud », un dossier qui est tout à fait passionnant et qui ne cède pas à la langue de bois. Donc voilà quelque chose de bien. Cher Bertrand Cousin, nous sommes fort honorés ici à Canal Académie de vous recevoir et nous aimerions peut-être que vous nous présentiez un peu votre parcours, les quelques moments forts de votre vie, et c'est vous qui allez les choisir, et peut-être ensuite allez-vous nous parler un peu des quelques ouvrages que vous avez publiés ou que vous allez publier.
Mon destin est un peu incohérent parce que j'ai eu plusieurs vies dans ma vie. J'ai commencé au Conseil d'État où j'ai connu Gabriel de Breuil d'ailleurs, pour ensuite travailler dans l'audiovisuel à France 3, diriger les services d'information du Premier ministre sous Raymond Barre, et puis je suis passé dans le privé à direction générale du groupe Hersant, puis à direction générale du groupe Havas, et entre-temps j'ai été député dans ma Bretagne natale et vice-président de la région Bretagne. Donc vous voyez, c'est... Et puis, bon, de fil en aiguille, Havas a été contrôlé par Vivendi Universal. Dans Vivendi Universal, et donc j'étais conseiller à la présidence, et il y avait Vivendi Universal Publishing, qui est la grosse branche de l'édition et de la presse professionnelle. Et la branche édition a été vendue au groupe Lagardère. Et d'une autre partie, à la suite des injonctions de la Commission européenne, a été vendue au groupe Wendel. Et donc Editis, dans lequel je travaille aujourd'hui, c'est 750 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc je suis au syndicat, je suis membre du bureau du syndicat national de l'édition. Et je représente d'ailleurs l'édition française à la Fédération des éditeurs européens. Et compte tenu de cette curiosité que j'ai toujours eue sur les questions internationales et de la langue française, m'ont demandé, devant le constat d'une diminution de l'influence du français et par voie de conséquence ou par voie de cause de la diffusion du livre français dans les pays francophones, de faire ce rapport.
Mais peut-on, justement, voilà une question qui me vraiment jaillit de l'esprit, si j'ose dire, peut-on vraiment parler du déclin de la langue française aujourd'hui? C'est-à-dire, oui, par rapport à 1940, où l'anglais, l'anglo-américain n'avait pas la place qu'il a aujourd'hui, mais peut-on vraiment, vous êtes un homme, on peut dire un des hommes clés en France dans certains domaines, domaines importants pour l'édition et autres, peut-on vraiment parler, comme n'exagère-t-on pas en un mot, en parlant, en évoquant le déclin de la langue française? Parce que moi-même, mes propres travaux, mes propres recherches, mais qui ne sont pas tout à fait pareils aux vôtres, disons, ne me permettent pas d'aller jusqu'au déclin, si vous voulez, etc.
Écoutez, nous avons, nous conservons des atouts importants. C'est-à-dire que la demande de français reste très importante dans le monde. C'est-à-dire, une fois que les gens possèdent la langue anglaise, en général, qu'ils massacrent, parce que en fait, c'est une langue très riche et qui est...
300 mots.
Qui a en 300 mots balbutié. Les gens veulent parler français. Donc, je veux dire, l'image, le prestige de notre langue reste important.
Ah, oui.
Deuxième atout, nous avons un réseau d'établissements d'enseignement et de professeurs. Il y a à peu près 700 000 enseignants de tout poil qui enseignent.
Moi, j'avais le chiffre de 900 000, mais bon, on ne va pas se quereller. Hein.
Et 700 établissements. Donc, il y a là, je veux dire, une base très, 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 très importante. Bon, et puis nous avons, notamment dans les pays francophones, des représentations diplomatiques avec des attachés culturels, des conseillers culturels, sur la qualité desquels on peut discuter parce qu'il y en
tout
a un peu de tout poil,
tout
si
à
je
fait.
Puis dire. Et puis il y a les alliances françaises. Je veux dire, il y a tout un réseau. Tout un réseau. Mais le constat, c'était bon, l'objectif de ce rapport, c'est de faire le constat suivant, qui lui est quand même alarmant. L'édition française exporte chaque année, l'année dernière, pour 660 millions d'euros de livres. Sur ces 660, il y en a 300, donc ça c'est pas mal, qui vont vers la francophonie du Nord, c'est-à-dire Suisse, Belgique,
ah,
Canada,
c'est pas mal, ça.
Luxembourg.
Oui, c'est pas mal.
Ça veut dire que là, sur la langue française, il y a un dynamisme. Mais en revanche, sur le Maghreb, c'est 28 millions d'euros, et à peu près autant sur l'Afrique.
Oui, ce qui est très, très, très peu.
Ce qui est très, très
peu.
Peu.
C'est peu. Oui.
La langue française dans ces pays-là, elle implique quoi au départ? Elle implique une alphabétisation des enfants.
Tout à fait.
Dans leur langue locale et tout de suite après en français.
En français, oui.
Et là, nous avons aussi des éditeurs, que ce soit Hachette ou Editis ou Magnard, qui ont réalisé des produits, des livres vraiment, vraiment formidables. Il y a à peu près 1000 livres adaptés à la scolarisation des enfants, qui sont parfois coédités avec des éditeurs locaux et qui, tout le temps, font l'objet d'un travail intense avec des auteurs locaux pour que la pédagogie, la sensibilité soient adaptées à ces différents pays.
Les vases communicants.
Voilà. Voilà, donc la situation n'est pas noire. Nous avons des atouts, nous avons des éditeurs qui continuent de vouloir investir dans ce secteur-là, alors que, comme on ne dirait pas à l'Académie française, c'est « much trouble for little profit », parce que les éditeurs français sont attachés au rayonnement de la langue française. Mais pour enrayer, on est quand même vers une pente du déclin, pour l'enrayer et redresser, il faut se retrousser les manches.
Alors, il y a, j'ai lu très attentivement ce rapport qui est très riche, qui donne beaucoup d'informations, puis un point de vue du syndicat que vous représentez de l'édition, et qui vraiment, notamment les conclusions sont tout à fait intéressantes. Il y a tout de même, et je fais un peu la bouche du col, il y a deux éléments qui m'ont un petit peu frappé par... je dirais peut-être un peu leur absence, c'est le... Mais ça, peut-être, c'était... Il fallait faire un autre rapport aussi, donc je ne vais pas vous taquiner là-dessus. C'est peut-être la question des librairies notamment du Sud, en ce sens que on ne perçoit pas très bien en tant que lecteur, mais je vous dis, c'est peut-être hors sujet, même si vous l'évoquez tout à l'heure, ces libraires du Sud, on a un peu de mal à les situer, qui sont-ils, où sont-ils. En un mot, je me demande si... pas été important de demander aussi aux libraires du Sud ce qu'ils pensaient de leur relation avec le Nord, etc., etc. En ce sens que, je vais vous dire pourquoi je vous dis ça, c'est pas du tout pour... je vous dis, non, c'est un rapport important.
C'est crucial.
C'est crucial, voilà. C'est qu'on a l'impression que dans... d'ailleurs, vous le dites, voyez, page 23, une prise en considération du rôle fondamental des librairies. Donc, voilà. Vous-même, en tant que président, vous le dites tout à fait, mais on n'a pas... il y a quand même plusieurs personnes qui ont collaboré, qui ont donné des informations. On n'a pas le côté très... tactile, proche de ces libraires du Sud. Que veulent-ils? Qu'attendent-ils de nous, etc. Et moi, j'avais fait un dossier sur notamment la francophonie en 87, où justement, je donnais la parole à beaucoup de gens de la francophonie. Et là, je me demande s'il ne serait pas bon, dans un prochain rapport, ou pour faire suite aux recommandations qui sont tout à fait excellentes que vous faites à la fin du rapport, de peut-être demander aux libraires de les laisser parler un petit peu plus. Est-ce que j'ai tort ou pas de...
Non, mais je veux dire, le problème des réseaux de librairies dans les pays francophones est crucial. Parce que sans librairie, il n'y a plus de diffusion de livres.
Tout
et donc, c'est l'affaissement du français. Que ces librairies sont dans des situations difficiles.
Ah ouais.
Parce que lorsque vous êtes en Côte d'Ivoire ou au Zaïre, bon, il y a des problèmes de sécurité. Il y a des problèmes de prix du livre. Parce qu'il y a souvent, dans ces pays-là, il y a des taxes
terribles.
Qui sont imposés à l'importation de livres. Et même si le Quai d'Orsay en France, dans le cadre du programme Plus, abonde pour diminuer le prix du livre qui arrive dans ces pays-là, eh bien, vous avez des taxes à l'importation. Et donc, d'ailleurs, on a demandé au président Abou Diouf d'utiliser son magistère moral et du bras qui constitue l'Organisation internationale de la francophonie, d'intervenir auprès d'un certain nombre de gouvernements qui vraiment exagèrent dans ce domaine-là. Et ensuite, on assiste à une relève de génération. C'est-à-dire qu'il y a des libraires passionnés, francophiles, et puis bon, ils ont un certain âge, ils ont des difficultés, et il y a un problème de relève. Alors, ces libraires, nous les connaissons. Ils viennent au Salon du Livre de Paris.
Pour l'Afrique noire, c'est combien de librairies à peu près? À peu près, si est-ce que...
S'il y en a une centaine, hein,
C'est pas beaucoup. Et pour le Maghreb, ça serait...
C'est à peu près de bon semaine. Si vous êtes dans, je sais pas, Bamako, je sais pas, il y a trois libraires français. Donc, c'est vrai, c'est un maillage insuffisant. Et alors, il y a une association internationale des librairies francophones qui est très active et qui organise des jumelages entre des librairies de tel pays et des librairies en France.
Bonne idée, ça.
Voilà. Qui forment les libraires, qui les aident dans leur équipement informatique. Pour passer les commandes, maintenant, il faut utiliser Internet. Et d'ailleurs, j'ai eu l'idée, c'est un petit passage de ce rapport, de prendre contact avec les associations de collectivités territoriales, notamment Cités Unies, en leur disant, vous consacrez des sommes importantes à l'aide au développement, eh bien écoutez, là vous avez un champ d'action très intéressant. Donc, pourquoi ne pas financer des bibliothèques en milieu rural, en utilisant les éditeurs, les bibliothèques, on peut leur dire, voilà combien ça coûte, voilà ce qu'il faut faire, voilà le fonds de livres qu'il faut mettre, etc. De financer les classes des tout-petits. Les classes des tout-petits, c'est un concept élaboré par le président Ouad au Sénégal. C'est du préscolaire avec un suivi sanitaire également. Je veux dire, pour pas que tous ces tout jeunes n'aillent que dans les écoles coraniques.
C'est
quand même un enjeu qui est considérable. Et là, on peut très bien imaginer que Rennes sponsorise le financement de 4, 10...
Est-ce que ça se fait suffisamment, selon vous, ou pas?
Alors, c'est une initiative que j'ai prise et qui est bien reçue.
Ah, excellent, ça.
Voilà.
C'est important, ça.
Donc, c'est quelque chose de concret, parce que là...
Qui est récent, donc.
Qui est tout récent. Si vous voulez,
Vous voulez dire, depuis 40 ans, pour parler de la période un peu moderne, personne n'avait songé à...
Pas vraiment. Alors, vous avez une direction de la coopération décentralisée qui dépend du ministère des Affaires étrangères et qui est chargée d'enregistrer en quelque sorte l'initiative qui sont prises par les uns et les autres. Et dans ce domaine-là, beaucoup de collectivités locales investissent dans l'hydraulique, dans l'agriculture, dans le festif aussi, dans les troupes folkloriques, etc. Mais le livre... Donc je dis, écoutez, là, il y a des choses à faire. Et puis, il peut y avoir une collectivité, une ville qui parraine un libraire en zone francophone, qui l'invite à venir faire un stage dans le libraire de la ville, lui offre une informatique plus récente, etc.
Je crois que ça, là, vous touchez du doigt le concret, ce qu'il faut faire, plutôt que les grandes déclarations qui, franchement, encombrent un peu les chemins depuis 40 ans. Et c'est vrai que je conclue cette première partie de l'émission, et nous allons en reparler, bien sûr, dans la deuxième partie. Il est tout à fait évident que les structures sont multiples et se dérangent les unes et les autres, pour utiliser un terme doux. Et vous avez très bien souligné aussi, dans ce rapport, le problème avec la Banque mondiale, c'est-à-dire la question des Français qui doivent passer sous les fourches caudines des anglophones. C'est quand même assez ahurissant. Nous sommes avec Bertrand Cousin, conseiller du président d'Editis, et nous parlons de son excellent dossier sur la présence du livre français dans les pays francophones du Sud. Et je rappelle que Bertrand Cousin est le représentant d'Editis au bureau du Syndicat national de l'édition. Je vous remercie infiniment et nous allons dans quelques instants continuer cet entretien avec Monsieur Bertrand Cousin.
Nicolas Poussin et Orphée, la collection privée de Goethe, la gravure de Louis-René Berge, les méditations sur la beauté de François Cheng, les tableaux de Bernard Buffet et de Velikovitch, les œuvres de Pierre-Yves Trémoy, mais aussi Le monstrueux dans l'art ou Bosch et les tentations de Saint-Antoine, Canal Académie vous propose une série d'émissions sur l'art et de réflexions sur la beauté.
Nous sommes très heureux aujourd'hui de recevoir
pour la deuxième partie de cette émission Bertrand Cousin, qui est le représentant d'Editis au bureau du syndicat national de l'édition. Monsieur Cousin, qui s'est présenté tout à l'heure, a une carrière qu'il jugeait, disons, multiple. Il a utilisé un terme un peu fort qui était « je n'ai pas un parcours très cohérent ». Je crois qu'au contraire, il a un parcours très riche. Et nous évoquons avec lui le mémorandum qu'il a donné au syndicat national de l'édition, qui s'appelle « La présence du livre français dans les pays francophones du Sud ». Et alors, nous continuons ce très bel entretien et évidemment, vous évoquiez l'importance du concret, c'est-à-dire des libraires. Comment voyez-vous l'avenir, justement? Alors, est-ce que le redressement est possible où nous allons, ou est-ce que le déclin va continuer? Parce que les messes francophones, tout ça continue et...
Moi, j'étais très agacé depuis plusieurs années devant ces grands rassemblements de la francophonie où on échange des discours triomphalistes, asinus asinum fricat, nous sommes tous épatants, vous allez voir ce que vous allez voir. Et une fois que tous ces braves gens, dans leur avion de première classe, sont retournés dans leur pays respectif, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Il faut savoir que, par exemple, le budget de l'Organisation internationale de la francophonie consacré à l'éducation est de 8 millions d'euros.
Ah oui, c'est infime, infime.
Mais ce que soutient dans ce mémorandum, c'est deux choses. Premier élément, il faut que le monde de l'édition balaye devant sa porte. Nous avons un certain nombre d'organismes professionnels, l'un qui s'occupe des assurances à l'exportation, un deuxième qui s'occupe du transport à destination de ces pays-là, et le plus important qui s'appelle le Bureau international de l'édition française, qui a en charge notamment les foires et salons, les études de marché, etc. Il faut dire que le monde de l'édition ne s'est pas suffisamment investi, consacré à son rayonnement dans cette zone des pays du Sud. Et donc, on m'a demandé de piloter un groupe de travail dans lequel sont représentées les différentes formes d'édition et où sont représentés le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture, l'Agence française de développement et l'Organisation internationale de la francophonie.
Oui. Là, c'est important, ça.
C'est-à-dire qu'on essaye de surmonter cette sorte de...
Réseau séparé.
Oui, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, je ne sais pas moi, 10 ou 12 bureaux administratifs, agences, associations en tout genre, qui contribuent au développement du français, qui aident la diffusion du livre, etc. Et moi je dis, et ça représente pas mal d'argent tout ça, et je dis, c'est pas la peine de dépenser plus, déjà dépensons mieux.
Oui, bon. Tout à fait.
Et donc, moi, j'avais proposé à l'époque, ça a été repris d'ailleurs par le président Chirac au dernier sommet francophone, qui consiste à faire comme les Anglais, c'est-à-dire de regrouper tous ces moyens et ces bonnes volontés, parce qu'il y a vraiment, je ne suis pas en train de dire, ce sont des fonctionnaires étriqués qui font rien.
Non, il y a
pas
des gens de très grande qualité.
Pas du tout, puis ils sont très motivés sur ce sujet-là. Dans un organisme comme le British Council, qui pourrait être l'Agence française de développement, hein, qui a des implantations locales importantes, qui a les moyens, pour qu'on regroupe ça et qu'on donne là une cohérence à l'action et en concentrant les moyens. Alors, deuxième point dans ce petit groupe de travail, nous avons décidé, qui trop embrasse mal étreint.
Tout à fait.
Et donc, on a décidé pour l'année prochaine de nous coordonner, hein, l'interprofession, les ministères et les organismes, sur un certain nombre de pays cibles.
Ah oui, très bien.
Et alors, à cette occasion, le Quai d'Orsay est en train d'établir un fichier complet dans ces pays-là, mais à vocation à le faire dans tous les pays, de tous les acteurs.
Ah voilà, ouais. Ça c'est très important. Livre. Savoir qui fait quoi.
Voilà, le responsable de l'agence française, le directeur du lycée, le attaché culturel, la mission laïque, Et qu'on ait là un panorama complet, qu'on analyse les besoins réels, qu'on prenne un contact spécifique avec les libraires dont vous parliez tout à l'heure.
Je crois que ça, c'est fondamental.
Qu'on veille à ce que les éditeurs de français langue étrangère, qu'on puisse également déclencher des aides particulières, notamment de la Banque mondiale. Et...
Mais est-ce que, comme homme de synthèse, ayant, vous avez tout à l'heure, vous avez présenté votre parcours qui est tout à fait riche, important, un parcours d'un Français ouvert sur le monde, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il est quand même un peu étonnant, je ne pratique pas la langue de bois, vous non plus, que depuis 40 ans, on se soit parfois, pas toujours, parfois engagés dans de véritables impasses, au lieu de regrouper nos forces, de synergie et autres. Je suis un peu étonné, ayant moi-même pas mal pratiqué l'étranger, je suis assez étonné de voir qu'on a vraiment dispersé nos moyens. Et comment ça se fait, ça? Comment vous le voyez-vous,
vous? Je ne vais pas vous faire l'injure de vous rappeler le titre d'un homme éminent qui a été à l'Académie française et avec qui, comme moi-même, avons travaillé dans le passé.
C'est Breuil. Non,
le mal français.
Ah oui, à la perfide, bien sûr, tout à fait.
Et je veux dire, on a cette sorte de bureaucratie, de compétition. On crée des agences et on a des responsables d'agences qui veulent protéger, étendre leur territoire. Et on a une espèce de guérilla gauloise.
Je crois que c'est vrai. Là, vous avez.
Mais qui n'est pas. C'est pas un triste privilège de ce secteur-là. Je veux dire, on le voit dans. Mais là, ça atteint une. Je veux dire, on voit tout de suite les pertes en ligne, l'inefficacité et au total, le déclin du livre français, le déclin de l'enseignement du français, malgré tous les atouts que nous avons.
Un seul souvenir, avant de passer des choses plus optimistes, souvenons-nous de l'ambassadeur Leprêtre, Jacques Leprêtre, qui avait été nommé par M. François Mitterrand pour piloter le premier sommet francophone, et Leprêtre m'avait confié la chose suivante, disant que presque tous les fonctionnaires français qui l'entouraient pensaient que ça serait le premier et le dernier sommet francophone. Ça laisse à réfléchir quand même, hein, je veux dire. Bon, là, c'est le passé, nous sommes dans les années 80. Mais enfin, les années 80, il y a 20 ans, etc. Alors, si vous voulez, passons à des choses évidemment beaucoup plus positives. Et je trouve que votre mémorandum est évidemment très solide. Et notamment, vous appuyez l'idée, enfin, vous proposez d'affecter, ça, je trouve ça original et fort bien, fort intéressant, l'affectation des volontaires pour la francophonie. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'est pas fait encore.
Non, c'est également dans le rapport d'Hubert Astier, parce que, je veux dire, le constat que je fais vient sur un secteur limité dans le droit fil du rapport du sénateur Duvernois sur les stratégies d'action culturelle de la France, et qui est une volée de bois vert très, très critique vis-à-vis de l'action de notre pays, de ses administrations. Et puis, un autre rapport d'Hubert Astier, qui est inspecteur général des affaires culturelles et qui a fait un rapport sur la langue française. Et donc, ce rapport reprend certaines des propositions, et notamment cette création des volontaires de la francophonie. Vous savez, la fin du service militaire obligatoire a fait que beaucoup de gens qui allaient là-bas au titre de la coopération...
N'y vont plus.
Et donc, il y a ce qu'on appelle les VAE, les volontaires de l'action économique. Enfin, donc, le gouvernement français a cherché à pallier ce qui est devenu une carence. Et donc, on pourrait très bien imaginer qu'il y a des volontaires de la francophonie qui pourraient, dans les organismes d'enseignement, pour venir en appui aux libraires, pour venir en appui à des éditeurs locaux. Il y aurait tout un champ.
Alors, comment les recruter, ces volontaires de la francophonie? Sur quels critères? À quel endroit? Je me permets, comment verriez-vous les choses?
Vous savez, pour ça, il faut naturellement des crédits publics.
Ah oui, hein, tout à fait. Oui.
Mais il existe, pour les volontaires qui vont en entreprise ou dans le monde associatif, il y a un bureau spécialisé, il y a une analyse des candidatures, il y a une proposition des postes. Enfin, c'est quelque chose qui fonctionne dans d'autres secteurs que la francophonie.
Parce que, en fait, si vous voulez, pas vraiment à travers votre rapport qui est très structuré et qui, je dois le dire, retient l'attention, permet, à mon avis, d'essayer de passer à quelque chose de nouveau. Mais il y a une confusion, pas dans le rapport, mais dans la société, entre finalement, souvent, la culture française et la francophonie, c'est-à-dire les cultures, si on peut résumer à ça, les cultures de la francophonie. Et moi, je crois que dans notre cher pays, on n'a pas vraiment encore, sauf dans des milieux spécialisés, ceux qui connaissent bien la chose, mais passer la vague de cette séparation de culture française, culture francophone. Et pour preuve, le fait qu'il n'existe pas, et ça c'est quand même stupéfiant, de chaire de la francophonie à part en Sorbonne, et je crois qu'il y en a une autre, je ne sais même plus si elle est vraiment opérante, bien sûr il y a des gens qui s'intéressent à la francophonie, mais il n'y a quasiment pas de chaire à part une ou deux ou trois en France de la francophonie. Donc ça veut dire que tous les étudiants qui veulent poursuivre des travaux avancés dans le domaine de la francophonie, tenez-vous bien, vont au Canada, à l'étranger.
Et
alors ça, là, ça serait intéressant, je me permets vraiment d'intervenir là-dessus, je crois que là, il y aurait quelque chose à défendre auprès du gouvernement. Est-ce que le nouveau gouvernement, parce qu'on n'entend pas grand-chose, s'intéresse à la francophonie ou pas?
Écoutez, j'ai expédié, il y a quelques jours, ce mémorandum à M. Christian Philippe.
Ah oui, tout à fait.
Dont j'ai appris par hasard qu'il était chargé d'un rapport qu'il doit remettre, le pauvre, pour le 19 juin. Et il ne serait pas impossible que M. Christian Philippe, qui avait été directeur de cabinet de François Fillon à l'Éducation nationale, est en charge d'un secrétariat d'État sur justement la francophonie. Enfin, il y a d'autres candidats, mais je pense...
C'est quelqu'un de sérieux. C'est quelqu'un de sérieux.
Je pense qu'il y aura... enfin, tout ceci est à, ne dépend ni de vous, ni de moi. Et je l'espère, en tout cas, un secrétariat d'État à la francophonie.
Très bien, parce que...
Qui pourra jouer ce rôle que je préconise... D'une part, de défendre plus nos positions vis-à-vis de la Banque mondiale, où on est toujours considéré comme d'affreux colonialistes, et donc les appels d'offres, notamment pour le scolaire, qui sont considérables, vont plutôt aux Québécois ou aux Belges.
Je vais vous couper là, parce que...
Les Belges qui n'ont jamais été des colonialistes,
non,
d'ailleurs.
Non, tout à fait. vous n'êtes pas sans rire. Je vous coupe là, parce que nous allons parler de la Banque mondiale maintenant, dans la dernière partie de cette émission, etc. Je suis très heureux, évidemment, aujourd'hui, de recevoir, dans cette deuxième partie de l'émission, Bertrand Cousin, qui est représentant d'Editis au bureau du Syndicat national de l'édition, pour un mémorandum qu'il a fait au Syndicat national de l'édition et qui s'intitule « La présence du livre français dans les pays francophones du Sud ». Nous allons retrouver Bertrand Cousin dans quelques minutes pour la troisième partie de cette émission consacrée, évidemment, à la francophonie et à l'édition française, à l'édition francophone. Merci, chers auditeurs. Je suis très heureux, aujourd'hui, dans la troisième partie de cette émission, de retrouver Bertrand Cousin, qui est le représentant d'Editis au bureau du Syndicat national de l'édition. Et nous évoquons ensemble un excellent mémorandum qu'il a présenté au Syndicat national de l'édition et qui s'intitule « La présence du livre français dans les pays francophones du Sud ». Alors, cher monsieur, nous étions en train de parler, je vous ai coupé un peu durement, nous parlions un peu de la question de la Banque mondiale et des problèmes que nous rencontrons avec la Banque mondiale. Qu'en pensez-vous?
Écoutez, la Banque mondiale a un rôle très important en ce qui concerne l'alphabétisation et la scolarisation des enfants dans ces zones-là. Je vous rappelle que dans le cadre du millénium de l'ONU, l'éducation était une priorité, moyennant quoi la Banque mondiale a orienté son action d'une manière préférentielle vers l'éducation et donc a lancé des appels d'offres pour la conception et l'achat de livres scolaires dans ces différents pays. Et on s'aperçoit que les éditeurs français ne sont pas retenus, ont énormément de mal, parce que nous avons mauvaise presse auprès de la Banque mondiale, parce que la France est considérée comme un État colonial, et donc ce sont les Québécois, les Suisses et même les Belges qui remportent plus facilement ces... Alors, je m'en suis ouvert aux représentants... de la France auprès de la Banque mondiale, qui est M. Duquesne, qui est le frère de l'écrivain bien connu. Et mais il serait important, et c'est une préconisation, que le nouveau gouvernement use de son influence diplomatique auprès de la Banque mondiale pour remettre un peu les pendules à l'heure. Ça, c'est un premier point.
Et à votre avis, pourquoi cette non-communication avec la Banque mondiale?
Si vous voulez, la culture de la Banque mondiale est une
très
culture anglophone. Sur tous les effectifs de la Banque mondiale, je crois qu'il y a près de 10 000 personnes qui se trouvent implantées, je crois que c'est à New York ou Washington, je ne sais plus. J'y suis allé pourtant.
10 000, c'est énorme, oui.
Ben oui, oui, c'est je veux dire, on pensait que la Banque mondiale chargée du développement, ils seraient plutôt sur le terrain.
Oui, 10 000 personnes, c'est une petite armée.
Ils sont dans les bureaux, ils sortent des appels d'offres en différentes langues, ils traduisent ça. Et...
Ah, si vous voulez, cette foison, c'est effarant. Ouais.
Et donc, on n'est pas vraiment dans le coup. Puis on a une image que nos amis anglophones, qui eux n'ont jamais été colonialistes, les Anglais.
Non, bien sûr. Vous savez, j'ai été très frappé quand j'étais à Buenos Aires, tout d'un coup, il y a quelques années, à la fin des années 90, et j'ai été très frappé par cette formule. La langue française était jusque-là très bien implantée, jusque dans les années 50, et tout d'un coup, quelqu'un a dit « Mais la langue française, ça sert à quoi ?» Alors, c'est comme si vous disiez aujourd'hui « La langue anglaise, ça sert à quoi ?» si vous voulez, etc. Bon, et il suffit, vous avez un effet de mode, de sortir de son chapeau un petit lapin fleuri, et aussitôt, tout le monde embarque et suit le lapin qui s'est transformé en caniche. Enfin, soyons sérieux, je crois que là, il y a en effet un travail à faire du côté de la Banque mondiale qui est considérable.
Et on a un travail aussi vis-à-vis des institutions européennes.
Voilà.
Parce que ce soit sur le budget de la culture, il y a des sommes importantes qui vont vers le cinéma et l'audiovisuel. Rien vers le livre.
Et comment vous expliquez ça?
Deuxièmement, vous avez un autre, un autre champ d'action qui est l'aide au développement.
Ouais, ouais.
Et l'aide au développement, tout le monde sait que ça passe par l'alphabétisation, par l'enseignement, par le livre scolaire, par le livre de jeunesse. Rien.
Alors pourquoi ce silence radio?
Rien. Alors, parce que...
C'est stupéfiant.
Alors, il y a un des motifs, c'est que pour obtenir des financements européens, il faut que ce soit des projets qui soient soutenus simultanément par plusieurs pays.
Ah, oui.
Or, la langue est quand même quelque chose de très, propre à un pays.
Et c'est vrai.
Et puis, les traditions culturelles, ayant trait à l'éducation, ayant trait à la langue, sont foncièrement différentes d'un pays à un autre. Et donc, c'est très difficile de monter des projets communs.
Mais on ne pouvait pas monter, par exemple, un projet avec la France, la Belgique, la Suisse, la Bulgarie, la Roumanie.
C'est ce qu'on essaye de faire. Mais, en plus, ce sont des procédures extrêmement lourdes.
C'est-à-dire des pays très différents, les structures de chaque pays.
Donc, si vous voulez, si un éditeur français, par exemple, veut monter un partenariat, il faut qu'il aille séduire les bureaucrates à Bruxelles pour leur expliquer que voilà ce qu'il faut faire, etc. Il faut ensuite qu'il aille trouver des partenaires dans l'Europe entière. Qu'ensuite,
les démarches sont coûteuses.
Voilà, d'avoir repéré un pays sur lequel on pourrait faire une action. Donc il faut aller voir les autorités locales, les responsables d'administration, les différents ministres qui s'en occupent.
Et après, partager les bénéfices, il y en a.
Voilà. Et puis, on est dans un monde... Et alors, en plus, ces crédits-là sont délégués aux États. Donc, c'est une entreprise...
difficile.
Très difficile. Et donc...
Qui prend du temps.
Qui prend du temps, qui prend de l'argent. Et donc, nous souhaiterions que, là aussi, le nouveau gouvernement prenne son bâton de pèlerin vis-à-vis des institutions européennes. Que ce soit sur le budget culture ou le budget de l'aide au développement. J'ai moi-même fait une démarche à un organisme qui s'appelle Europe Aid, qui est un organisme à Bruxelles qui est en charge du développement. J'ai trouvé des gens qui étaient plutôt ouverts sur l'idée d'aider le livre et l'édition pour l'éducation. Ça paraît même basique. Mais bon, il me dit, toutes les procédures, on ne peut rien faire de plus.
J'ai vu dans ce mémorandum très intéressant, parce que attention, il faut le relire, parce qu'il y a des tas de possibilités que vous ouvrez, et bon, etc. Il faut revenir sur certains points. Et notamment, j'ai vu un terme que vous avez dû utiliser trois fois peut-être, c'est le terme « fondation ». Et je crois que là, comme pour les chiens de la Bourgogne, mais qui ne concerne pas tout à fait votre travail, enfin même si ça peut être connexe, mais dans le domaine de la fondation, est-ce que nous n'avons pas un très grand retard pour les fondations peuvent nous aider à faire ce genre de choses, et ça serait beaucoup plus facile que de passer par Bruxelles, etc. Et là, je crois qu'en France, nous avons un vrai problème avec la question des fondations. Songez à la fondation que veut créer l'Alliance française. C'est difficile, enfin, je crois que c'est en train enfin d'aboutir, d'après ce que j'ai cru comprendre, mais ce n'est pas facile. Or, vous auriez des fondations pour le domaine de l'édition. L'argent, il en existe. Il faudrait un peu le drainer. Là, il y a quelque chose. Là, il y aurait peut-être quelque chose à développer. Mais est-ce que je me trompe? Peut-être que je...
Parce que là, c'est que fondation n'est pas dans la tradition juridique française.
Voilà. Hein, voilà.
Donc, c'est un système tout à fait intéressant qui est importé de pratiques anglo-saxonnes et qu'on a énormément de difficultés à transposer et puis à ce que les entreprises orientent leurs dons vers des fondations crédibles. Donc, moi, je pense qu'effectivement, on pourrait très bien imaginer qu'une fondation puisse piloter ses volontaires pour la francophonie,
oui, tout à fait.
Avec des crédits publics et abondés par des crédits en provenance des entreprises, notamment des entreprises qui investissent dans les pays du Sud.
Regardez,
que tel auditeur que ça concerne prenne son bâton de pèlerin lui aussi.
Et tel industriel, voilà. Moi, je crois que cette question... Parce que vous savez, j'avais été très frappé, il y a longtemps déjà, je pensais quelque chose... Je m'intéresse évidemment à ce don du livre, étant membre de la MOPAS, il y a de l'association des Palmes Académiques, etc., qui offre 6 à 7 tonnes de livres par an, dans notamment pas mal de pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud, etc., d'Amérique latine. J'ai toujours... aimer cette idée de vous dire, dans tel pays, j'ai repéré 500 francophiles, par exemple, etc. Et d'une fois par an, offrir, on enverrait une liste d'une dizaine de livres parus dans l'année en France, et leur dire, pour Noël, quel est le livre que vous souhaiteriez recevoir en cadeau, etc. Ça vous dirait un livre par personne, ça voudrait dire 500 livres dans tel pays. Ça serait un geste d'amitié, ce beau livre français. Là-bas, on pourrait en parler. Ça pourrait aider la diffusion de ces livres, aider l'éditeur en question. Je crois que ça serait quelque chose de peu coûteux qui nous permettrait d'aller fort loin. Parce que ça viendrait, et je crois qu'il faut laisser parler le cœur, l'intelligence est très important, bien sûr, mais il faut aussi, la raison, c'est très important, bien sûr, mais il faut laisser aussi parler le cœur. Et souvent, ce qu'on nous reproche à l'étranger, je crois un petit peu, c'est qu'on nous dit souvent, moi je l'ai tellement de fois entendu dire, vous nous oubliez, vous Français, vous oubliez, vous Français, que l'on aime la langue française, que l'on parle le français et que l'on attend beaucoup de vous et notamment, surtout, des livres intéressants à lire. Et Dieu sait s'il y en a dans notre pays et des conférenciers qui nous parlent de la littérature française. Or, si vraiment vous intéressez à cette question, moi je m'intéresse à cette question des conférences, on s'aperçoit qu'on manque de conférenciers qui... vraiment évoque la littérature française contemporaine et d'hier, classique et autres, on en manque. Les gens désirent des conférences et des conférenciers. Enfin, voilà.
Il y a un organisme qui regroupe deux organismes existants et ça s'appelle Culture France, qui regroupe l'Association pour la diffusion de la pensée française d'un côté et de l'autre l'Association pour l'action artistique pour la France. Et cet organisme, justement, a pour mission de créer des animations culturelles, artistiques, et comme je vous le disais tout à l'heure, dans le cadre des pays cibles que nous avons choisis dans le petit groupe de travail que j'anime, on va demander à Culture France de développer des actions spécifiques dans les 3 ou 4 pays cibles que nous allons retenir pour l'année prochaine.
Parce que quand on aime les livres, d'abord il faut faire, on aime les livres, on les aime, mais il faut savoir faire aimer les livres. Et je me souviens par exemple de ces très belles communications de Pierre de Boisdeffre dans un très beau livre qui s'appelait « L'île aux livres ». Et je dois dire qu'en relisant, quand il parlait de Malraux, quand il parlait de George Sand, quand il parlait de quelques autres auteurs, là je ne les ai pas tous en tête, mais tout à fait Monterland, bien sûr, on avait vraiment tout de suite envie d'aller lire tel livre si on ne l'avait pas lu, etc. Alors, moi, je tiens tout à fait à vous féliciter pour ce rapport, pour ce mémorandum qui est tout à fait riche, qui ouvre des tas de portes et vous le faites de façon structurée, cohérente, et vous cherchez, je l'ai bien senti, le moyen, justement, de sortir de cette espèce d'impasse dans laquelle nous sommes, où on nous a mis
plus que nous nous sommes mis nous-mêmes. Et votre, d'ailleurs, on le lit à la page 28, une meilleure coordination entre ces différentes structures. Il faut absolument y arriver. Et j'ai noté la vitale, notamment, il serait souhaitable, avec le SELF, de créer des fonctions transversales communes comme un fichier des librairies à l'étranger. Vous voyez, ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure. Ou, vital aussi, le moyen le plus simple est d'instaurer une coordination organique par le président du BIEF, qui a une fonction plus générale que les autres organismes, etc. Donc, sous l'égide du président du BIEF, ce comité comporterait les présidents et directeurs de trois organismes, ainsi que le président et le secrétaire de la commission internationale du SNE. Un réseau, le secrétariat général du comité pourrait être confié au directeur général du BIEF. Un réseau de contacts institutionnels serait constitué, comprenant les rapporteurs parlementaires, les administrations françaises concernées, affaires étrangères, culture, l'Agence française de développement, les organismes spécialisés.
C'est ce groupe de travail que j'ai créé.
Eh bien, écoutez,
et qui fonctionne.
Ce groupe de travail, nous en attendons beaucoup, cher Bertrand Cousin, cher Monsieur Cousin. Vous nous avez éclairé aujourd'hui. J'espère bien que vous reviendrez dès que possible. Et nous allons terminer par cela. Rappelez-nous deux, trois titres de vos livres que vous gardez bien, bien proches de vous, si vous voulez, etc. Votre jardin secret, si j'ose dire.
Les livres que j'ai écrits.
Oui, que vous avez écrits.
Bah, écoutez, j'ai été professeur associé à Dauphine.
Qui n'est pas une mauvaise université.
Et j'ai commis un traité de droit de la communication.
Ah, oui.
C'était effroyable de faire un traité de droit.
Je vous admire.
Voilà. Et puis, comme je suis breton et ancien élu breton,
donc têtu.
J'ai sorti un livre sur la Bretagne. Il s'appelle Bretagne à l'ouest du Nouveau.
Ah. Les Bretons sont en général des pionniers.
Donc, il parlait de la Bretagne aujourd'hui et demain. Et puis, j'ai publié un livre il y a un an et demi aux éditions de la Presse de la Renaissance, qui s'appelle « Vous avez du pain sur la planche » et qui s'adresse à mes trois enfants qui m'ont demandé « Mais pourquoi tu nous as mis dans ce monde où il y a le sida, le terrorisme, la pollution, la misère ? Donne-nous des pistes d'espérance et d'action. » Alors, je me suis gratté la tête furieusement et je me suis dit « Bon, bah, je vais essayer de répondre. » Et c'est l'objet de ce livre.
Chers auditeurs, j'ai eu l'honneur aujourd'hui et le grand plaisir de vous présenter Bertrand Cousin, représentant d'Editis au bureau du syndicat national d'édition et qui a préparé un mémorandum au syndicat national de l'édition qui s'intitule « La présence du livre français dans les pays francophones du Sud ». La situation, on l'a compris, n'est pas facile, mais nous avons maintenant quelques pistes qui me semblent tout à fait intéressantes et certainement grâce à vous. Je signale aux auditeurs qu'ils peuvent parfaitement télécharger cette émission dans notre médiathèque. Merci beaucoup.